Bonjour chers amis et auditeurs de Radio Courtoisie, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouvel épisode des répliques du Nouveau Conservateur que j'animerai aujourd'hui en remplacement de l'ami Paul-Marie Couteau qui nous écoute et qui interviendra en fin d'émission. Le programme de cette émission alors, a été un peu chamboulé à cause des grèves de nos petits camarades trotskistes. Le sénateur Sébastien Meurant arrive, mais avec 5 ou 10 minutes de retard. Et donc, il nous rejoindra dans le studio dans un instant. Et donc, nous parlons ensemble des questions régaliennes, et notamment de l'échec catastrophique et horrible de cette affaire Liana. Mais avant cela, nous allons avoir par téléphone Thierry Boutet, qui est directeur opérationnel des rédactions du Nouveau Conservateur et qui voulait nous parler de l'encyclique du pape sur l'intelligence artificielle, Magnifica Humanitas. Thierry, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends, bonjour.
Bonjour cher Thierry, donc je rappelle que vous avez été l'un des animateurs d'EDIFA, de Famille Chrétienne, de Liberté Politique aussi, et que maintenant vous mettez vos talents au service du Nouveau Conservateur. Et vous êtes un des grands spécialistes de la doctrine sociale de l'Église. Vous avez une lecture un peu originale, si je puis dire, de Magnifica Humanitas, parce que beaucoup de gens y ont entendu un accent un peu, j'allais dire, technophobe, c'est peut-être pas forcément le terme le plus adéquat, mais vous entendez plutôt un discours anthropologique, si j'ai bien compris.
Oui, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur l'encyclique. On a eu effectivement, depuis la sortie de l'encyclique, un certain nombre de réactions très intéressantes. On a eu des biologistes, des éducateurs, on a eu des spécialistes de l'IA qui sont intervenus. Ce qu'on a voulu interroger, c'est plutôt les présupposés philosophiques et théologiques de l'encyclique.
Oui.
Donc, c'est une manière de lire l'encyclique un peu différente des réactions qu'on a pu entendre, des études ou des analyses qui en ont été faites.
Donc, en gros, l'idée, c'est ce que cela dit de notre nature humaine et pas tellement ce que cela dit de la machine.
Exactement. Et c'est ça qui est important, je pense. Il y a une espèce de sous-texte, en quelque sorte, dans l'encyclique. Les encycliques partent toujours d'un constat ou d'une situation historique, et puis font une analyse, et puis éventuellement font des préconisations. Mais si on en reste là, on en reste en quelque sorte aux situations contingentes qui ont été l'occasion du discours. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, et c'est un peu comme dans les Évangiles, c'est d'avoir un autre niveau de lecture, c'est-à-dire de passer un peu du sens
littéral,
matériel du texte, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit plus profondément. Et là, c'est extrêmement intéressant, parce que sous ce rapport, le texte remet, je crois, un certain nombre de pendules à l'heure.
Alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez ? Parce que ça saute pas aux yeux du lecteur. Dites-en plus.
Non, effectivement, ça saute pas. Je pense que ça saute pas aux yeux à la première lecture, et moi-même, à la première lecture, je ne l'ai pas vu. Mais en le lisant, je me suis dit, mais à partir de quoi ? Quels sont les principes qui sont mis en œuvre par le pape dans le regard qu'il a sur l'encyclique.
Et alors, qu'est-ce que vous dégagez comme principe ?
Bon, je pense que déjà, on a une indication dans le titre, Magnificat Humanas, il nous parle de quoi ? Il nous parle de l'homme.
Oui.
Et je pense que cette encyclique n'est pas pour nous dire ce qu'il faut penser l'IA ou même quoi faire. Mais il nous interroge sur ce que nous devons être à l'heure de l'IA.
Oui.
D'une certaine façon, d'ailleurs, c'est un peu la même démarche que celle qu'avait eue Léon XIII avec Rerum Novarum.
Oui, d'ailleurs, il se met vraiment dans la roue de Léon XIII. Hein. Il insiste beaucoup sur la filiation doctrine sociale de l'Église.
Tout à fait. À l'occasion de la révolution industrielle, Léon XIII, qui est aussi l'auteur de Pastrémas, nous a donné une vision de l'homme, d'une certaine façon. Et là, je pense que c'est exactement la même chose que fait Léon XIV.
Et en fait, l'idée, c'est de dire...
C'est l'intelligence humaine, oui.
L'idée, c'est un peu de penser la permanence de la nature humaine malgré la contingence de l'époque, c'est ça le...
Oui, c'est de la retrouver et l'urgence de la retrouver. Ils nous disent ce qu'est l'intelligence humaine, ils nous disent ce que c'est que la raison, ils nous donnent une vision sa conception de l'intelligence, sa conception de l'homme, à travers, à l'occasion des questions que pose l'IA à chacun de nous et à la société tout entière.
Mais pardon de faire un peu l'avocat du diable, cher Thierry, mais est-ce que ça n'est pas un peu utopique de prétendre retrouver la nature de l'intelligence humaine, pardon, alors que toute la modernité consiste à rompre le lien entre l'intelligence humaine et le réel, et donc la vérité, en fait?
Oui, mais justement, c'est là où le pape est très original et, à mon avis, en rupture avec la modernité politique et la modernité en général. On retrouve à travers lui, et c'est ça qui est très intéressant, toute une tradition philosophique qui remonte à Aristote et saint Thomas.
Ah, ça m'intéresse beaucoup. Et donc concrètement, sa réponse à l'ère de l'IA, c'est retrouvons le goût de l'intelligence qui va chercher le réel.
Exactement. Il redonne une conception du savoir, de la connaissance, de notre relation au monde, qui est tout à fait, c'est-à-dire dire traditionnelle ou classique, qui était celle de la philosophie classique, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand on voit ces réflexions sur l'éducation, comment former l'homme d'aujourd'hui à l'heure de l'IA, en réalité, il nous donne une vision de l'éducation, de l'école, de l'université, qui est tout à fait classique, qui pourrait être celle de Jules Ferry, enfin.
Oui. À ce propos, permettez-moi une petite page de publicité, parce que dans un numéro récent du Nouveau Conservateur, on a publié un excellent article de Thibaut Perrin sur l'IA et l'éducation. Paul Marie en avait fait la promotion il y a une semaine ou deux, je ne me souviens plus. Je pense que c'est vraiment important de revenir. Les humanités sont vraiment le cœur de l'éducation. Si on ne revient pas à d'abord lire nos anciens et puis chercher la vérité dans la lecture de ces anciens, on risque d'être complètement balayé par la puissance de calcul de l'intelligence artificielle.
Absolument. D'ailleurs, quand on utilise l'intelligence artificielle, tout le monde le fait, moi-même je le fais, on s'aperçoit très vite que l'usage qu'on peut en faire est intéressant, fécond et utile, qu'à la condition qu'on connaisse parfaitement le sujet que l'on est en train de traiter avec lequel on se sert de l'intelligence artificielle comme d'un outil.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, dans le texte qu'on va publier, l'opuscule qu'on va publier, il y a tout un développement sur la notion d'instrument et d'outil, parce que je pense que c'est aussi une des clés de lecture de l'approche du pape de l'IA.
Oui, c'est ça. Et il y a un peu derrière toute cette toile de fond de la résistance d'un certain nombre de grands auteurs. Je pense à Bernanos de La France contre les robots, je pense à Jacques Ellul sur la technique, sur le fait que la technique n'est pas neutre, qu'elle doit être un moyen j'allais dire d'émancipation dans une catégorie marxiste, mais qu'elle doit être un moyen au service de l'humanité et pas quelque chose qui vise à remplacer l'intelligence humaine.
Oui, et là vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a deux choses que nous vient pas d'ailleurs, c'est que c'est un outil qui, comme tous les outils, ça a été vrai au moment du quand on a inventé les chemins de fer, etc. Mais cet outil modifie tout particulièrement notre environnement.
Oui.
Et il modifie l'environnement social, économique, politique même, mais il modifie notre environnement personnel, c'est-à-dire notre rapport personnel à la réalité. Et c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas un outil exactement comme les outils précédents.
Oui.
Le marteau a quelque chose de très extérieur. Là, c'est un outil qui est, j'allais dire,
qui singe la personne humaine, quoi.
Qui sert la personne, qui intervient au niveau de notre intelligence,
ouais,
c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus intime pour nous.
Oui, et je lisais à l'occasion de la parution de l'encyclique un certain nombre de commentateurs qui parlaient notamment de cette propension de certains jeunes de chercher des relations avec des robots ou avec des chatbots, comme on dit maintenant, plutôt qu'avec des êtres humains réels, parce que évidemment l'immense avantage de l'informatique, c'est qu'elle est toujours disponible et qu'elle râle jamais. Mais évidemment, il n'y a pas les mêmes relations interpersonnelles avec une machine qu'avec un être humain.
Absolument. La machine, elle pense pas, c'est véritablement un outil. Si on perd ça de vue, on comprend d'abord rien à l'IA, et puis soi-même, on se met en danger, à mon avis.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur... Parce qu'il semble que dans les commentaires sur l'encyclique, il y a un débat sur la gouvernance mondiale de l'encyclique. Peter Thiel, le fondateur de PayPal, a dit que la gouvernance mondiale était une forme de l'antéchrist. Je ne suis pas très loin de penser comme lui, mais je salue à l'instant l'arrivée dans le studio de Sébastien Meurant. Bonjour Sébastien. Je vous laisse le temps de vous installer et je continue avec Thierry donc pour finir sur cette encyclique sur l'intelligence artificielle. Oui, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la possibilité de réguler l'intelligence artificielle par une gouvernance mondiale ou quelque chose comme ça?
Alors, deux choses. Je me méfie toujours de la gouvernance mondiale.
Oui.
Et deuxièmement, je crois que c'est impossible.
Je pense aussi.
C'est impossible parce que d'autres acteurs de l'intelligence artificielle l'ont dit, on ne peut pas l'arrêter.
Oui.
Donc, je pense que l'enjeu, et ça le pape y insiste fortement, ça va être l'éducation.
Oui.
Il va falloir former des personnes capables de rester libres, de rester indépendants, de rester avec le sens du réel à l'heure de l'IA. Mais je ne crois guère à la réalisation mondiale et je m'en méfie beaucoup.
Merci beaucoup, cher Thierry. Donc, je rappelle que vous travaillez actuellement un opuscule du Nouveau Conservateur sur cette encyclique et notamment sur cette logique d'anthropologie derrière le sujet technique.
Absolument.
Merci Thierry.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Et donc, je salue l'arrivée dans le studio de Sébastien Meurant. Bonjour Sébastien.
Bonjour Guillaume.
Alors, j'ai raconté que vous aviez eu quelques difficultés dues à nos petits camarades maoïstes ou trotskistes, on ne sait jamais.
Mais en reste, mais en tout cas, ils sont encore efficaces.
En tout cas, pour les grèves, ils sont toujours efficaces. Ils gardent une capacité de nuisance. Donc, voilà, vous savez peut-être, chers amis auditeurs, qu'aujourd'hui, il y a une grève assez salée de la SNCF. Et donc Sébastien, qui est de la France périphérique, on a fait les frais. Alors, deux mots pour vous présenter. Vous êtes actuellement conseiller régional, chef d'entreprise.
Départemental.
Oui, départemental. Je ne sais pas pourquoi
j'ai... C'est la raison pour laquelle j'ai mis un peu de temps pour venir, j'en suis bien désolé.
Vous êtes ancien sénateur, c'est comme ça que je vous ai connu en d'autres temps et en d'autres lieux. On a fait un peu les 400 coups à la Haute Assemblée ensemble. Donc pardon chers amis auditeurs, nous nous connaissons vraiment bien et donc il n'est pas absolument impossible qu'un tutoiement s'échappe à l'occasion d'une blague, mais on va essayer de rester courtois et de se vouvoyer à ce plateau. En tout cas, ce que je voulais, c'était recevoir Sébastien et parler ensemble, notamment à l'occasion de la grande tragédie de cette affaire Liana qui occupe beaucoup en ce moment les médias, à juste titre. J'ai titré l'émission Le régalien, la grande faillite du macronisme. Je crains que...
Je ne connaissais pas le titre de l'émission, j'aurais repris les mêmes mots, la faillite du régalien et la faillite du macronisme.
Parce qu'on peut quand même dire que depuis 10 ans, il s'est planté systématiquement sur tout ce qui est la mission de l'État, en fait. Il est soi-disant chef de l'État, mais il se plante en tout sur ce que c'est qu'un État.
Depuis 10 ans, mais c'est la suite de François Hollande. Et c'est la suite d'une idéologie libertaire ouverte en 68 ou plus récemment en 80, qui a permis de libérer les prisons de certains terroristes et autre chose. Mais là, il y a une grande émotion dans le pays qui se renouvelle malheureusement à chaque fois.
Oui, absolument.
Là, c'est vrai que c'est assez énorme, mais si on reprend d'autres affaires, elles sont aussi énormes, notamment les scandales mondiaux. L'affaire Epstein, ça s'est arrêté en France, alors qu'une grosse partie de...
Oui, mais c'est une vieille tradition. La France a des frontières qui sont des passoires, mais qui sont extrêmement poreuses aux idéologies. Extrêmement étanches, pardon, aux idéologies. Donc, Tchernobyl n'a pas passé, et l'affaire Epstein s'est arrêtée. Un des cœurs nucléaires de l'affaire Epstein est à Paris, mais ça a l'air de n'intéresser personne, et spécialement pas Madame Braun-Pivet, qui était associée de certains avocats de cette affaire. Légèrement impliqué dans cette affaire. Mais là aussi, ça fait partie des choses que je trouve absolument incroyables dans cette affaire Liana. C'est tout le monde aujourd'hui dit c'est un scandale, il faut protéger les enfants. Mais donc on a le périscolaire dans l'indifférence générale, on recase des gens donc à Paris avec la majorité reconduite de la municipalité de Paris. Et ça a l'air d'intéresser. Et c'est tout juste si on n'est pas nous-mêmes des affreux parce qu'on dit vous pourriez peut-être au moins faire le ménage chez vous avant de donner les soins à la terre entière.
Et surtout, c'est que ces affaires-là sont sorties après les élections de mars. C'était connu bien sûr avant. Bizarrement, c'est pas bizarre d'ailleurs, les médias n'en ont parlé que réellement qu'après.
Qu'après, oui, c'est ça.
Mais quoi après ?
C'est quand même incroyable. On peut pas prétendre sérieusement qu'on protège les enfants quand, par ailleurs, on a donc l'affaire Epstein qui laisse absolument... ça a l'air d'intéresser personne. Et non seulement ça, mais les deux chambres, toutes les deux sollicitées par des parlementaires pour faire une commission d'enquête, ont toutes les deux botté en touche. C'est quand même incroyable.
Oui, c'est difficilement explicable, sauf à avoir des appuis au plus haut de l'État, ce qui est le cas en fait. Et puis on voit ce qui se passe là dans l'Aisne, à Saint-Quentin, puisque c'est un mois particulier. C'est un mois particulier, c'est le mois des fiertés.
Ouais.
Voilà. Et ce qu'on a pu voir aussi sur les réseaux, si c'est avéré, certains font l'éloge de la pédophilie.
Ouais, bien sûr.
A priori, ce ne sont pas des fake news. Et là, on attend effectivement la réaction du pouvoir.
Ce dont on est sûr, c'est que une bonne partie de la révolution sexuelle a dit que toutes les transgressions, donc après 68, que toutes les transgressions étaient utiles pour renverser l'ordre bourgeois, capitaliste, je sais pas quoi, patriarcal. Et donc ils ont profité, ils ont en particulier promu abondamment la pédophilie. Enfin, un certain nombre de grands classiques du socialisme français ont été signataires de pétitions extrêmement peu recommandables. Quoi.
Oui, ça.
Et de grands médias aussi d'ailleurs.
Des grands médias. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelques décennies. Mais bon, on en voit les méfaits maintenant. Et c'est vrai que certains de ces signataires sont toujours, des décennies après, je pense à quelqu'un qui était à l'Institut du monde arabe il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui était député européen, qui est toujours invité sur les plateaux. C'est quand même absolument stupéfiant. Donc il est grand temps de reprendre... les missions fondamentales d'un État, c'est bien sûr de protéger les citoyens.
Les citoyens, et à commencer par les plus faibles, parce que spécialement les enfants. Quoi,
La sûreté fait partie des droits de l'homme, et là, on peut remonter un petit peu avant. Un petit peu avant, et c'est vrai que là, la faillite... Si les Français ne se rendent pas compte qu'on assiste à la faillite dans ce domaine-là, que c'est un domaine de la sécurité, mais dans le domaine de la justice, mais dans tous les domaines, en fait. L'État régalien a failli, mais l'État a failli dans tous les domaines avec des prélèvements obligatoires qui n'ont jamais été aussi élevés. Ouais. On est à 57%. Donc, lorsque l'on parle de question de moyens, c'est une mauvaise, évidemment, explication. Et là, sur cette affaire en particulier, cette terrible affaire... dans ce tribunal, on avait pu trouver les moyens de convoquer les pauvres agriculteurs plusieurs fois, et pas cette personne qui était effectivement un danger pour la société.
Ouais. Est-ce qu'on peut d'ailleurs venir plus précisément à cette question, parce qu'on ne va pas parler du régalien en général. Évidemment, il y a un sujet de sécurité qui est assez directement lié aussi à un sujet migratoire. C'est pas que tous les immigrés soient des criminels ou des délinquants, et pas que... évidemment, il y a des Français de souche qui le sont aussi, mais il est évident qu'une partie de la décivilisation vient du fait que de plus en plus de gens ne partagent plus... ils ne sont plus membres du corps social, en quelque sorte. Ils sont donc des barbares au sens ancien du mot. Ils ne parlent pas notre langue et ils ne partagent pas notre culture. Donc, ils sont vraiment, pour moi, c'est les barbares au sens précis du mot. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont tous aller jusqu'à la sauvagerie et au viol d'enfants, mais ça veut dire quand même qu'on a un sujet, une partie de la sécurité vient quand même du fait que... Il faut qu'une majorité, une écrasante majorité du corps social partage la même grammaire, si je puis dire.
Et c'est ce qui se passe en France, comme ce qui s'est passé en Angleterre, comme ce qui se passe en fait dans tout l'Occident. Moi, j'ai passé les 50 ans, lorsque j'étais jeune, il n'y avait pas d'attaque au couteau. Une des explications, évidemment, vous l'avez cité, c'est l'importation d'une partie de population qui ne veut pas vivre comme nous, qui se promène avec des couteaux et qui s'en servent. Et là, loin de restreindre les accès, moi qui étais sur cette mission immigration, c'est là qu'on s'est connu, on a eu une ouverture comme jamais sous ce président Macron. Et ses serviteurs, car je rappelle qu'il n'y a pas eu que Macron. Aujourd'hui, on va parler de bloc central, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais ceux qui se disent attachés à la souveraineté, enfin gaullistes, etc., ont collaboré et collaborent toujours avec ceux qui détruisent la nation, et qui détruisent l'État régalien sur tous ses aspects. Donc là, il est évidemment grand temps d'avoir un choc et un réveil, un sursaut l'année prochaine, car sinon, évidemment, ça va continuer à se dégrader et partout en France.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur? Parce que je pense que beaucoup de Français, y compris les Français de droite, y compris les auditeurs de Radio Courtoisie, ont une idée assez imprécise de cette vague migratoire dont on parle à l'instant. Mais vous avez des ordres de grandeur sur combien de personnes sont rentrées pendant les quinquennats Macron?
Alors, bon, on est à plus de 500 000 par an.
De 500 000 légaux par an.
Légaux, évidemment, les illégaux. Mais on transforme, évidemment, puisque... des personnes qui ont un titre de séjour qui s'arrêtent en illégaux lorsque l'on ne reconduit pas. Et pire que tout, c'est qu'avant, il y avait des queues dans les préfectures. Et l'essentiel du travail des préfectures, c'était le droit des étrangers. Maintenant, ces queues ont été supprimées, puisque tout se passe par informatique. Là, ça passe par informatique. Il n'y a plus de queue, mais le système ne fonctionne pas. Donc, on crée ce paradoxe, c'est d'avoir des personnes qui viennent en France, qui restent et qui commettent des délits et qui restent en France. Et de pourrir la vie de ceux qui travaillent, qui viennent en France, qui respectent la loi et qui ont les pires difficultés à rester dans le droit, alors que certains, je vous dis, travaillent, sont intégrés, veulent s'intégrer, veulent devenir français, car il y a encore cette, lorsqu'on voyage, cette admiration pour
la France continue France, à tirer.
La France de Victor Hugo, la France de Lamartine, cette France, elle rayonne encore un peu, même si évidemment, avec le pouvoir actuel depuis des années, on est de plus en plus, on ne nous reconnaît plus. Nous-mêmes, nous ne reconnaissons plus notre pays. Donc, et moi qui suis effectivement de la banlieue d'abord tranquille de Paris, qui évidemment évolue malheureusement de plus en plus, qui se
s'indice
par bien, mais des provinces, rappelez-vous Nantes, un magnifique exemple de Nantes, qui était une ville complètement paisible, l'Ouest français. Et là, c'est sous le fruit, en fait, c'est le fruit d'une idéologie de l'État de créer des espaces pour accueillir des personnes qui ne veulent pas vivre comme nous. Et là, c'est en France, mais c'est en Occident. Donc la montée d'une droite au niveau simplement européen, et on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit ce qui se passe en Angleterre, on voit ce qui se passe partout en Europe, c'est tout simplement des peuples qui ne veulent pas mourir. Et je crois que les mots de Philippe de Villiers sont complètement exacts. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus le pays dans lequel on a grandi, et en l'espace d'une génération, même d'une demi-génération, on a vu les choses exploser. Et là, ce pouvoir, qui est un pouvoir mondialiste, où tout doit pouvoir, les capitaux, les hommes, les biens, on peut importer du poulet d'Ukraine avec toutes les pires substances, du Brésil d'ailleurs, eh bien, c'est l'ouverture, c'est la disparition des frontières, c'est ce gouvernement européen qu'on veut nouer. Il parle de souveraineté européenne qui ne veut rien dire pour les personnes qui s'intéressent à l'étymologie de ces deux mots. Donc, il faut évidemment que d'ici à 2027, les Français se rendent compte qu'il y a des causes, et les causes, ce ne sont pas les moyens, c'est d'abord tout une volonté de détruire ce qui fait le corps.
En vous écoutant, pardon pour cette boutade, mais ça me faisait penser au peu regretté maréchal Staline qui disait derrière tout problème, il y a un prénom et un nom. Et en l'occurrence, je pense qu'on peut nommer très clairement un certain nombre de responsables qui portent lourdement la responsabilité de l'effondrement français. On va peut-être écouter le Bobino de soutien à Radio Courtoisie, pardon.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Merci beaucoup, et donc chers amis auditeurs, n'hésitez pas à soutenir Radio Courtoisie, mais je vois que l'ami Palmarie qui nous écoutait voulait intervenir, j'imagine, pour répondre ou pour abonder dans le sens de Sébastien.
Oui. Pardon d'intervenir.
Au contraire, j'allais dire, vous êtes chez vous.
Je ne veux pas avoir à redire tout à l'heure ce que je dois dire maintenant, puisque ça s'insère tout à fait dans la conversation que vous avez tous les deux. Je salue Sébastien Morand, que je n'ai pas vu depuis trop longtemps. Il me manque. D'ailleurs, il ne manque pas qu'à moi, il manque à la politique française, et j'espère qu'il reviendra.
Il reviendra, absolument.
Et qu'il jouera le rôle que sa valeur et sa lucidité et son courage extraordinaire, parce qu'il a eu un courage que peu de parlementaires ont eu.
J'en témoigne.
Vous en témoignez, bien entendu, et moi aussi. Il lui revient beaucoup de choses à Sébastien Morand. Et je pense que la politique française serait bien ingrate, mais je pense qu'elle le fera si elle ne lui donnait pas un rôle de premier plan dans les années à venir, qui sont évidemment des années très différentes, je veux le croire, en tous les cas, de celles que nous avons subies. Bref, c'est une âme forte de la République, Sébastien Morand, et il devrait, ou de la France.
De la France, vous parlez de la France.
Vous avez raison.
J'ai un petit problème avec la République, je reconnais. Mais...
Moi aussi, vous avez raison de me rappeler. Alors, Sébastien, parenthèse, bravo d'ailleurs aussi pour l'intervention, parce qu'il ne faut pas la laisser passer, cette encyclique.
On va y revenir longuement.
On va y revenir par un livre, en effet, dont se charge Thierry. J'ai toute confiance parce qu'il est excellent, Thierry, mais aussi dans le Figaro.
Absolument.
Papier dans les prochains numéros, d'ailleurs, dès le prochain, nous y travaillons. Bref, Sébastien Morand disait quelque chose de capital tout à l'heure. Je voulais le dire à la fin de l'émission, mais je ne veux pas revenir sur un sujet qui est déjà abordé. Oui, comment se fait-il qu'on ne le dit pas davantage ? La pédophilie, elle a été... qui submerge... Alors, on est un peu sidéré, parce que ni vous ni moi, aucun de nous trois n'avons connu une telle vague de pédophilie quand nous étions jeunes. Bon, au XXe siècle. Mais... je comprends ce qui s'est passé. Je dois faire d'ailleurs un mea culpa parce que j'ai été très bénévolant avec l'un des coupables, qui est Gabriel Mazneff, qui d'ailleurs était invité par plusieurs personnes à Radio Courtoisie. Je n'avais pas compris à quel point c'était grave. C'était plutôt le fait de la gauche, d'ailleurs, hein, bien entendu, d'ouvrir les vannes, de casser les digues, les vieilles digues qui endiguaient des comportements inadmissibles et très dangereux pour des millions de jeunes. On s'en aperçoit maintenant, mais c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans les années 70, 80 et encore 90. Absolument. Une espèce de licence incroyable. Je ne l'ai pas vu, je dois dire que je bats ma coulpe. Mais maintenant, je comprends ce qui s'est passé. Et c'est très significatif à la mairie de Paris. La mairie de Paris a été prise en main par les socialistes, par un certain Delanoë, qui n'est pas du tout étranger à ce que je dis, au début de ce siècle. Et ils ont considéré la pédophilie à la mairie de Paris comme une figure de la libération. Il y avait des rapports, il y avait
des
rapports même très précis. Mais pour ces messieurs socialistes, gauchos, écolos, etc., ce n'était pas un crime.
C'était réactionnaire de lutter contre ça.
Eh oui. Et je connais très bien un animateur de la ville de Paris, qui est un directeur maintenant, qui se tait d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il doit se taire, qui m'a dit, mais il y a encore 20 ans, 25 ans, au moindre fait constaté, et qui revient par les CAS, les circonscriptions d'animation scolaire, était sanctionné. Et petit à petit, on a vu des rapports qui tombaient au panier parce que les nouveaux maîtres socialistes, écologistes et gauchistes de la mairie de Paris s'en foutaient. Et ça leur retombe sur le nez maintenant. Parce que maintenant, les parents s'aperçoivent que c'est une plaie pour la scolarité de leurs enfants, ajoutée par la réforme de Vincent Peillon sur les rythmes scolaires. Absolument. Je vois Sébastien qui mais je m'étonne que personne ne réfère à cette réforme qui a été abandonnée. Souvenez-vous, ayant été ministre de Hollande, je crois, qui a été abandonnée assez vite par la plupart des villes, mais pas la ville de Paris, d'autant que Vincent Peillon était un ami de Madame
Hidalgo,
un ami personnel. Ils ont joué le périscolaire jusqu'au bout. Ce qui fait que, ça s'est fait d'ailleurs au détriment des connaissances, puisque les rythmes scolaires ont été aménagés de telle sorte que l'après-midi, il y avait des animations. Bon, c'est-à-dire qu'on n'allait plus à l'école, on faisait des animations. Et donc, il fallait recruter des animateurs. Et tout à coup, il a fallu recruter des centaines et des centaines. Vraiment, c'est un sujet que je connais bien, pardon de m'étendre, mais je m'étonne que depuis 3 ou 4 jours, personne ne réfère à l'ensemble du problème dans ça, à cette échelle. Il a fallu recourir à des animateurs, recruter n'importe comment, et qui étaient en contact avec des enfants, sans filtre, sans savoir à qui on avait affaire. Et le problème s'est aggravé du fait que c'est un foutoir sans nom, la mairie de Paris. C'est-à-dire que l'absentéisme règne dans tous les services, y compris dans le périscolaire, et quelquefois arrive dans certaines écoles, c'est encore ce directeur que je laisse anonyme et que je connais très bien, le centre de loisirs de la ville de Paris qui me racontait ça, on voit arriver, bien entendu, tous les matins, quelquefois dans certaines écoles, des centaines d'élèves, et la moitié des animateurs manquent. Alors, en catastrophe, on téléphone, quelquefois même on recrute quelqu'un le matin pour l'après-midi, en passant par des agences de recrutement privées, c'est-à-dire qu'on peut appeler des gens qui sont inscrits, vous savez, dans ces agences d'intérim, à 10h du matin pour être à 14h à la rescousse. Et évidemment, tous les pédophiles de la Terre se faufilent, enfin de la Terre, de Paris en l'occurrence, et je pense que se faufilent dans cet interstice béant qui est la conséquence de l'incurie de la ville de Paris, consécutive aussi à cette réforme démente des rythmes scolaires due à cette tête brûlée de Vincent Peillon, que j'ai bien connu puisqu'il était parlementaire européen en même temps que moi. Donc, pardon d'être un peu long, mais je voulais dire ça tout à l'heure à la fin de l'émission, mais ça corrobore tout à fait ce que dit Sébastien. C'est en effet la conséquence de d'abord de l'amoralisme prêché par la gauche dans les années 70, 80, 90, et ensuite de l'incurie consécutive de certains responsables, y compris municipaux, et notamment à Paris. Ça, c'est tout à fait typique.
Si vous me permettez, Paul-Marie, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que Sébastien évoquait tout à l'heure les problèmes qu'il y a à Saint-Quentin. Donc, comme beaucoup d'entre nous ont entendu, il y a des profanations dans les églises, qui sont d'ailleurs à peu près du même type que les nuits blanches à Paris. Et pour moi, ça tient beaucoup, un des sujets majeurs de la protection des enfants tient beaucoup à la confusion très entretenue, là aussi par la gauche et la gauche déconstructionniste. Il refuse de voir des différences profondes, naturelles, entre hommes et femmes, entre adultes et enfants, entre Français et étrangers. Et donc, ce qui nous a protégés pendant très longtemps, c'est la distinction. La distinction était vraiment l'exercice de l'intelligence, et ça continue à être l'exercice de l'intelligence. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle de ça, qu'on pointe...
Et Peillon qui voulait arracher les enfants aux familles.
Oui, absolument. Au déterminisme familial.
Donc ça rentre tout à fait dans cette idéologie. C'est une idéologie de récupérer
Alors
les enfants.
Alors ça, j'ajoute un point. Ce n'est pas tout à fait les immigrés là, qui sont en cause.
Non.
On peut les accabler de beaucoup de mots. Mais vous savez, que ce soit Polanski ou Jacques Lang ou Cohn-Bendit, moi je dis des noms, ils ne sont pas talois. Bah, c'est ce que je veux dire. Ils ne sont pas des islamistes.
Hein, Bien sûr. Et la grande famille d'Ukraine, Kouchner, etc., c'est sûr qu'eux non plus ne sont pas...
C'est invraisemblable. Oui. Donc, c'est un problème qui est moral et qui est propre à la société française et au terrible traumatisme que l'on a infligé à la civilisation. Je répète, moi j'ai eu des relations avec Gabriel Mazeneuve, je n'en ai plus, parce que j'ai fini par comprendre à quel point c'était nocif. J'ai été long. Mais il y a eu un traumatisme, il y a eu une sorte de fracture dans la civilisation dans les années 70, 80 et 90. Je m'en rends compte en retard, moi je fais mea culpa. Mais cette fracture-là, elle est due à un espèce de gauchisme, sujet d'ailleurs de notre prochain numéro du Nouveau Conservateur, qui est dément. Et dont il faut absolument que les Français mesurent l'étendue pour qu'ils se rebellent. Je suis heureux de les voir dans la rue. Bon, évidemment, dans ma petite Corrèze, il ne se passe pas grand-chose. Mais moi, j'y serai dans ces manifestations devant le tribunal, devant les tribunaux de toutes les préfectures de France et de Navarre. Voilà, j'ai trop parlé, et pardon pour Sébastien.
Alors, je reviens à Sébastien. Sur la réforme de la justice, parce qu'il va bien falloir quand même qu'on s'attaque sérieusement à la réforme de la justice, puisqu'un des problèmes majeurs, c'est quand même que ces plaintes contre 7 personnes nommément ont été ignorées. Je suis entièrement d'accord avec vous, ce n'est pas d'abord une question de moyens, c'est d'abord une question de priorité et d'idéologie. Mais comment est-ce qu'on fait pour que les magistrats deviennent responsables de leurs décisions? Comment est-ce qu'on fait vous avez des pistes de réflexion?
Alors, déjà, rappelez-vous, les différents ministres gardent des sceaux depuis des années. On a eu, il n'y a pas si longtemps, un garde des sceaux qui s'appelait Dupond-Moretti, qui parlait de sentiment d'insécurité. On a eu un Premier ministre, là, paix à son âme, il est décédé il y a quelques temps, Lionel Jospin, qui parlait de sentiment d'insécurité.
Et qui a payé son élection présidentielle
Donc, incurie. Tant que nous ne sommes pas sortis d'un discours mensonger au plus haut niveau de l'État, eh bien, pourquoi voulez-vous que les juges travaillaient depuis les années 70 par le syndicat de la magistrature? Il faut lire...
La harangue de Baudot.
Il faut le lire. Donc tout ça s'explique en fait.
Peut-être, chers amis auditeurs, si tout le monde n'a pas lu la harangue qui est un peu à la source du syndicat de la magistrature, mais donc c'est un magistrat qui invite ses jeunes collègues qui vont rentrer dans la carrière à être partiaux, ce qui est vraiment l'exact opposé de la justice. À être partiaux pour rétablir l'équilibre entre le pauvre et le riche, entre l'homme et la femme, entre eux, etc., etc. Donc, choisir systématiquement choisir contre la victime, en l'occurrence. Parce que, donc, évidemment, là, en l'occurrence, on a choisi le prédateur contre la victime.
Absolument. Et donc, la dictature des juges, tous les livres, plus ou moins bons, écrits sur ce thème-là, aujourd'hui... quelles sont les personnes qui sont responsables de rien? Il y a les juges, il y a ce corps-là qui est extraordinairement protégé, qui a un corporatisme incroyable, et je pourrais citer des dizaines de cas, et peut-être encore les journalistes, mais les juges, aujourd'hui, en France, irresponsables. Si on remonte à l'affaire Outreau, ces magistrats ont été mutés avec une promotion. Dans Bonval-d'Oise, je peux citer le cas d'une présidente du tribunal qui a été mutée après une erreur manifeste, une affaire de terrorisme, avec un grade supérieur. Mais lorsqu'on a des ministres comme Dupond-Moretti, qui, en fait, si la société est coupable, qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité individuelle? Donc, en fait, je pense qu'il faut reprendre sérieusement en main le corps judiciaire, avec un ministre, avec un pouvoir qui a les idées claires dessus, que les juges soient la bouche de la loi et ne créent pas le droit, mais que ça soit au niveau, dans ce domaine-là, comme au niveau européen, sur toutes les affaires, les juges fabriquent du droit. Et si on revient sur des sujets d'immigration, la cour d'appel de Gironde avait écrit quelqu'un qui avait des problèmes de maladie pulmonaire du Sri Lanka ou du Bangladesh avait tout à fait le droit d'être en asile en France. Vous avez pu voir que la Cour nationale de droit d'asile, il y a 2 ans, a déclaré que tous les Gazaouis pouvaient venir en France, que les Somaliennes aussi, que les Afghans aussi. Et là, c'est des cours qui s'arrogent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et la jurisprudence, aujourd'hui, crée beaucoup de droits. Et moi, je me souviens de la loi sur la récidive de Nicolas Sarkozy. Les juges avaient créé le concept de réitération pour ne pas appliquer la loi sur la récidive. Donc, en fait, les juges devraient être la bouche de la loi, mais les lois devraient être lisible,
clair, oui, clair, c'est ça. Parce que par ailleurs, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même une responsabilité aussi des parlementaires. C'est que les parlementaires ont démissionné aussi. Enfin, ils ont choisi de laisser les juges soit violer impunément. Moi, je me souviens, ce qui m'avait le plus choqué en matière judiciaire, en dehors des manifestes erreurs judiciaires comme celles qu'on constate aujourd'hui, mais ce qui m'avait le plus choqué, c'est peut-être 30 ans maintenant, Debré était à l'époque, je pense, ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré était ministre de l'Intérieur, avait fait une loi un peu restrictive sur l'immigration, un sujet régalien dont je me souviens plus, et plusieurs centaines de magistrats avaient dit publiquement qu'ils ne l'appliqueraient pas. Mais c'est pas facultatif. Une loi, ça s'impose.
Ah, mais quand on est fonctionnaire...
Et ça s'impose spécialement aux magistrats, c'est ça.
Oui, on a des devoirs. Et surtout, c'est l'obligation de la justice est rendue au nom du peuple français. Et il va bien falloir que ce peuple français se manifeste dans les urnes et que les pouvoirs issus de ces urnes aient un programme clair, précis, pour reprendre en main dans ce domaine-là. Mais c'est que nos lois soient bonnes ou mauvaises, mais que ça soit nos lois aujourd'hui. Parce que le carcan que nous subissons, alors évidemment dans l'application des peines, dans la création du droit au niveau national, mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi développées
le droit international,
du droit international.
Et notamment européen.
Et européen, bien sûr.
Et donc, il faudra quand même aussi qu'on dise publiquement que nous ne pouvons pas continuer à admettre les oukases de l'Union européenne.
Je crois que ce n'est pas tenable. Et là, on peut remonter au droit... Costa, les arrêts Nicolo de 89, etc., où les patriotes de l'époque, et là, Jean-Marie, Paul-Marie, par rapport à ce que disait Jean-Pierre Chevènement en 89, pour. Pardon ?
Que oui !
Oui, voilà. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, mais là, en fait, on subit. Et ce sont les conséquences de tout ça. Ça a mis un peu de temps. Là, pour si on remonte Costa contre Enel, c'était, je crois, dans les années 60, en 64. Oui, c'est la supériorité du droit européen. Et bon, à l'époque, on avait le général de Gaulle qui nous protégeait de tout ça. Mais depuis, évidemment, on a perdu ce grand homme. Et on espère peut-être au moins avoir retrouvé quelqu'un avec les idées claires pour qu'on reprenne en main ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la liberté, c'est la sûreté, c'est la propriété et c'est aussi la résistance à l'oppression. Et là, on a subi avec ce personnage d'Emmanuel Macron des choses qui sont inouïes. Les privations de liberté dont le peuple français a été affligé à une période où on envoyait des hélicoptères pour des nageurs en pleine mer, où on poursuivait des gens en montagne. Ça, on a trouvé les moyens. Oui. On avait trouvé les moyens de payer des fonctionnaires pour dire ce qui était essentiel, pas essentiel. Donc là, sur ces affaires essentielles que sont la protection des mineurs, la priorité devrait... faire que on reprenne les choses en main. Donc c'est avant tout, je pense, une question de volonté et au plus haut niveau de l'État. Et après, l'administration administrerait, ça veut dire servir. Elle servira le pouvoir en place légitime qui appliquera une politique décidée par les Français et une politique qui, j'espère, une politique de reprise en main et de revenir aux fondamentaux. Si on reprend la liberté dans toutes les acceptations de ce terme, d'aller venir, de sortir à n'importe quelle heure pour une femme en mini-jupe, on n'en voit plus, ou un enfant, tout ça, qu'est-ce que ça a changé? Donc, les Français devraient être lucides quand même, ceux qui vivent. Alors, moi, j'entendais encore, il y a encore quelques temps, des personnes en province me dire, mais ce n'est pas notre réalité. Alors là, ça change quand même partout maintenant.
Pour le coup, c'est partout maintenant. Ouais. Parce que on parlait de Saint-Quentin, il y a quand même eu le drame de Crépole. Crépole, c'est quand même pas exactement une métropole. il y a eu quand même un gamin assassiné parce qu'il était blanc par une horde de racailles, quoi.
Là, on peut faire la liste.
Hein, on peut faire la liste, c'est ça. C'est pas, ce cas-là est emblématique, mais c'est loin d'être le seul. Et par ailleurs, il y a la logique que vous évoquiez tout à l'heure de saupoudrage. Moi, je suis très frappé en particulier du nombre de cas où le conseil départemental, par exemple, n'a pas les moyens de restaurer telle maison de retraite. Donc, vide les occupants. Et puis, 6 mois après, on apprend que ça va devenir un centre d'occupation pour clandestins. Et là, instantanément, on a l'argent pour leur mettre des caires. Ça va quand même. L'État est fait d'abord pour les ressortissants français.
Il faut revenir à l'essentiel, la boussole essentielle, l'intérêt national. Voilà. Mais là, pour connaître le sujet, puisque en tant que conseiller départemental d'un département du 95, et ce que vous dites est complètement exact. On trouve les moyens de supporter des lois qui sont complètement absurdes. Avant, on réquisitionnait des hôtels. Donc, vous ne trouvez plus un hôtel Formule 1 première classe dans les départements de première couronne, de petite couronne, car ils sont évidemment occupés. Donc, il y a une loi qui est sortie pour obliger les départements à transformer, à avoir des centres d'accueil. Parce qu'on considère que les hôtels, c'était effectivement pas quelque chose de suffisamment correct pour accueillir des dits mineurs, dits isolés. Et donc, on a demandé au département d'investir dans des structures avec du personnel, avec des salles de réunion, etc. Donc, dans une période où effectivement, l'argent public, même s'il est extrêmement prélevé sur l'économie, mais on a une période de terrible de croissance, de dette, etc., eh bien, les départements se soumettent a effectivement, plutôt que de résister, parce qu'entre des injonctions contradictoires au niveau de l'État, moi je suis de ceux qui, évidemment, choisiraient ces contraintes et se battraient pour défendre d'abord les habitants du département, couperaient les vivres aux associations qui sont évidemment pour certains d'entre eux pro-migrantes, qui travaillent...
Sont des trafiquants de chair humaine, parce que par ailleurs, il y en a qui font venir des clandestins, enfin qui sont directement complices des passeurs, enfin, c'est criminel en fait.
C'est un business.
C'est un business.
Et voilà, c'est un business. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui gère des associations, mais plus ils ont de malheureux, plus on leur donne des subventions. Ouais. Voilà. Donc il faut remettre tout à l'endroit.
Sur le sujet, pardon Guillaume.
Non, allez-y, j'allais me tourner vers vous justement.
Bien, c'est gentil, mais encore une fois, je veux laisser la parole à Sébastien, mais il y a des questions de... Ça se voit en lisant le budget, ces affaires-là. Vous savez que le budget de la justice est inférieur à 11 milliards. Alors, là-dedans, il y a les prisons, c'est énorme. Il y a les services de police judiciaire, la magistrature, etc. Bien. Mais vous savez quelle est la différence entre ce que coûte à la France le budget de l'Union européenne et les retours que nous en avons? Ça ne cesse de croître, ce différentiel. Il est de moins 12 milliards, c'est-à-dire plus que le seul budget. Et combien avons-nous donné à l'Ukraine?
Et combien on va continuer à leur donner?
Là aussi, on a trouvé de l'argent. Ça dépasse de beaucoup 10 milliards, c'est-à-dire le budget même. Non, mais c'est invraisemblable. Le budget même de l'éducation, de la justice, qui devrait en effet croître pour être au moins au niveau des pays développés, qui ne l'est même plus, parce que la priorité, ce n'est plus la justice pour ces messieurs qui nous gouvernent depuis les années 70. C'est des lubies idéologiques, la défense de l'Ukraine contre la terrible Russie, l'Europe à tout prix, quel qu'en soit le coût, quoi qu'il en coûte, comme disait l'autre rigolo qui tient le président de ce qui tient lieu pour une république, d'ailleurs. Donc, vous voyez, il y a même ces questions de priorité budgétaire qui parlent d'elles-mêmes. C'est une volonté politique, la déshérence actuelle de la justice.
Puisque vous avez la parole, Paul-Marie, vous vouliez nous dire un mot de la nuit blanche qui vous a beaucoup choqué.
Je peux dire que je n'ai pas une opinion, mais on n'a pas le droit de juger, pas plus que ses rois, on n'a pas le droit de juger ses évêques et ses papes. Enfin, on peut penser du bien de certains papes, comme l'actuel, qui a rencontré en Espagne, d'ailleurs, un roi. Foudroyant. Je ne sais pas comment on va faire en France, il va falloir qu'on soit très mobilisés au mois de septembre, si le pape vient, parce que il vient dans une pétonnière, il doit le savoir.
Je pense qu'il le sait.
En revanche, sans avoir à juger les papes, ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, et les évêques, ce qu'on ne peut pas empêcher de faire, autant il y a de très bons évêques, l'évêque de Corrèze est magnifique, j'en ai rencontré de très bons, chacun a certains noms. Mais enfin, Laurent Ulrich, archevêque de Paris depuis 3 ans et demi, 4 ans, son comportement dans l'affaire de Notre-Dame, dans l'affaire des vitraux de Notre-Dame, dans les chasubles grotesques dont il s'est affublé, dont on l'a affublé, mais il s'est laissé faire, lors de la restauration
oui.
Qui a ridiculisé la religion catholique aux yeux de la France et du monde entier, puisqu'il y avait des caméras de partout, de tous les pays. On a vu un archevêque vêtu comme un clown. Il s'est laissé faire. Et maintenant, il laisse faire l'utilisation des églises par cette madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, je préfère
Butch,
pas avoir son
nom. Butch, comme Butcher.
Butch. On se demande pourquoi elle ne fout pas la paix aux églises, puisque ce n'est pas sa religion, la religion catholique, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bon,
ça ne m'avait pas échappé.
Ça n'a échappé à personne. Donc, pourquoi les
Accessoirement, églises... je pense que c'est un peu moins risqué d'aller faire ce genre de cirque dans une église que dans d'autres lieux de culte.
C'est sûr.
juste notation, mon cher Dieu. Mais alors... il a laissé faire. Il savait ce que c'est une nuit blanche. Il savait ce que sont les projets, puisque c'est toujours la même chose. La destruction, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est la destruction de notre civilisation qui passe par l'insulte faite à notre histoire qu'on fait lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, le traitement immonde réservé à Marie-Antoinette. Bon, et ensuite réservé à l'Église. Bien. Et d'ailleurs, on ne trouve rien à redire, on se félicite, Ulrich le premier, après l'opération Jeux Olympiques, et qui laisse les églises aux mains de personnages dont l'intention est délibérément anti-chrétienne. C'est l'antéchrist. Certains disent que c'est satanique. Enfin, j'ai vu des images. C'est vraiment... Mais vous savez, on a déjà perdu beaucoup, je l'ai dit, mais prêchant dans le désert, lorsqu'on a corrompu la Toussaint en Halloween.
Oui, bien sûr.
Parce qu'Halloween est devenu une sorte d'hymne...
consumériste et païen.
Et païen mais même... C'est... Alors que
et même probablement démoniaque, parce qu'il y a quand même un côté invocation des morts qui est très malsain. Mais...
Invocation des morts, et c'est la mort qui règne. Or, la Toussaint, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est l'inverse.
C'est le triomphe de la vie.
C'est le triomphe de la vie. Et oui, évidemment, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire de la vie éternelle. On a déjà laissé corrompre. Et même les chrétiens, quand dehors, il faut foutre la paix aux enfants, toujours pareil, les enfants, ils s'aiment beaucoup Halloween, ils aiment beaucoup se transformer en monstres, en sorcières, etc. Mais la corruption de la Toussaint était déjà une indication de ce que serait cette montée en puissance de cette religion que certains réfèrent à Baal, mais enfin, Belzébuth, etc. Oui. Mais enfin, on voit ça derrière Epstein, etc. aussi. Il y a vraiment un mouvement qui est l'antéchrist.
Antichrétien et anti-humain du même mouvement, parce que par ailleurs, ils ont une détestation de l'être humain réel. C'est-à-dire que quand on viole et qu'on torture des enfants, c'est aussi une logique. Alors, c'est pas systématiquement directement un culte satanique, mais il y a quand même aussi cette logique de piétiner la création divine.
Ben oui, ça leur fait peur. Oui. La beauté de la création divine, il faut la détruire. Soit se convertir, soit la détruire. Ils ont choisi le diable. Ils ont choisi le diable, mais pourquoi l'archevêque de Paris prête la main à ceux qui ont choisi le diable en leur donnant nos églises pour une nuit entière de blasphème? Alors, les chrétiens, moi, je n'ai pas été le dernier à réagir sur Twitter, j'étais ulcéré. Et puis le fameux Ulrich, il m'ulcère depuis un certain temps, donc je l'ai dans le viseur. Mais c'est pas à moi de le dire, de toute façon, c'est pas un fonctionnaire, on n'a pas demandé sa démission, je sais bien. Bref, quelqu'un m'a repris très, très gentiment, Husson, Édouard Husson, en disant on n'a pas demandé la démission d'un évêque. Non, mais sa conscience.
On peut demander sa conversion, ça c'est tout à fait autorisé.
Bravo, Guillaume. Et il reste silencieux, Monseigneur Ulrich. Regardez Twitter. Les tombereaux de avec cet épisode épouvantable, je ne vais pas revenir là-dessus, des chrétiens qui sont mis à prier devant une église. Alors là, pour le coup, on trouve tous les policiers, ils étaient six, on a trouvé des dizaines de policiers pour les arrêter.
Oui. Enfin, et puis, on nous fait le coup des soi-disant violences fascistes. Enfin, donc, il a
été retoqué par le tribunal.
Oui. C'est quand même complètement grotesque. Enfin, c'est six gamins qui font une œuvre de piété tout à fait édifiante et qui se retrouvent en garde à vue pendant 24 heures pour avoir prié devant...
Et qui devraient nous servir de leçon et d'exemple. Parce qu'il y en a marre que les catholiques tendent l'autre joue à la Ulrich. Bon, maintenant, il faut devenir des militants, des combattants, puisque nous sommes attaqués en tant que chrétiens. On brûle nos églises, nos évêques donnent nos églises à des forces subversives, antichrétiennes. S'il n'y a plus les chrétiens pour réagir, à se mettre dans la rue, fût-ce pour faire des prières, alors c'est la porte ouverte à tout. Et c'est beaucoup plus important d'ailleurs que les élections de l'année prochaine, aussi importantes soient-elles, pour redresser une situation qui est devenue stupéfiante, bouleversante depuis 50 ans. Voilà.
Merci beaucoup, Paul-Marie. Peut-être que je peux profiter de votre présence, au moins à distance, mais pour évoquer le dernier numéro qui vient de sortir du Nouveau Conservateur, le numéro 31 vient de sortir, et c'est sainement réactionnaire, si je puis dire. Ordre naturel vous comptera. Et si les anciens avaient raison.
La société organique, très beau numéro. Dont vous avez eu l'idée, vous avez eu l'idée de beaucoup de choses, je dois dire, et je vous suis passionnément, Guillaume, puisqu'on co-dirige en réalité. Oui, il faut revenir à l'éloge de ce que fut la société organique, c'est-à-dire conforme au droit naturel, avant le XVIIIe siècle.
La famille de famille, la nation au sens traditionnel.
Oui, La tradition qui naît de la nature, d'ailleurs. Excellent. C'est la nature qui crée une tradition et qui finit par créer une norme. C'est ce qu'on appelle une civilisation au fil du temps. Bon, c'est beaucoup plus long à construire que ça n'est rapide à détruire. Hélas. Bien placé pour le voir. Mais est arrivé au 18e, vraiment tout s'est joué au 18e, principalement des pays protestants, notamment britanniques, c'est-à-dire pour moi, les protestants sont des anti-catholiques. Ils l'ont toujours été, dès le début, dès Luther, the Eisen und Bestias, c'est-à-dire c'est le doigt pointé sur les catholiques. 4 siècles plus tard, ils ont toujours le doigt pointé sur les catholiques. Et cette société-là, française, organique, tranquille, décrite par conforme Saint-Augustin, et nous avons mis sur la couverture, je crois, Saint-Thomas et Apote, mais Saint-Augustin joue son rôle, ils l'ont détruite par la juridiciation, c'est-à-dire par le droit. Le droit dont on voit ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui sans même se soucier de le faire appliquer. Mais qui a détruit, là aussi, la société organique, parce qu'on est passé au contrat, on est passé au conflit, la conflictualité de l'Occident, parce que pour moi, on ne fait pas partie de l'Occident, je le répéterai sans fin, l'Occident, c'est le monde protestant blanc. Bon, c'est tout à fait... il est au moins aussi dangereux que le Sud musulman. C'est la tenaille.
Cher Paul-Marie, la technique me fait signe que nous arrivons au bout de notre émission. Merci beaucoup, Paul-Marie, d'avoir été avec nous. Par téléphone. Merci Sébastien d'avoir été
là. À bientôt Sébastien. À bientôt.
Et à très bientôt, chers amis auditeurs.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur, dirigé aujourd'hui par Guillaume de Thieulois, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 10 juin 2026 de 16h à 17h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.